6h03, nous sommes mercredi 25 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, ça commence par de la bruine intermittente. Ça devrait cesser quand même assez tôt. C'est peut-être déjà terminé dans votre coin. On prévoit un dégagement par la suite avec des vents du sud, 20 km/h au cours de l'après-midi. Le maximum prévu, 21 degrés. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, minimum de 18. Demain, c'est couvert. On a des averses qui sont prévues durant la journée, avec des températures stables près de 18 degrés, des averses au cours de la soirée également. Quand je regarde les quantités de pluie qui sont prévues, par exemple pour la journée de demain, 5 à 10 mm, peut-être un peu vendredi, mais c'est quand même une très belle journée là, pour la marche pour la planète. On prévoit du soleil, quelques nuages, 19 degrés, et retour de la pluie pour la journée de samedi, 2 à 4 mm, plutôt ensoleillé dimanche. Et pour la semaine prochaine, ben, il y a des périodes de pluie également qui sont prévues. Mais les journées très, très chaudes, là, ça semble en tout cas terminé pour un bout de temps. Il faut évidemment parler en premier lieu ce matin de cette procédure d'impeachment aux États-Unis contre le président Trump qui a été lancée hier par les démocrates. Je vais essayer de résumer ça le plus simplement possible. Il y a un sonneur d'alerte dans l'histoire qui affirme que le président Trump, dans une conversation avec son vis-à-vis ukrainien, a mis de la pression donc sur l'Ukraine pour qu'il y ait une enquête concernant le fils de Joe Biden. Joe Biden, aspirant démocrate, peut-être le candidat présidentiel qui pourrait faire face à Donald Trump. Alors, pourquoi il met de la pression? Parce que le fils de Biden a fait des affaires en Ukraine et il est convaincu qu'il y a moyen de le coincer pour une histoire de corruption, et que cette histoire de corruption va donc nuire à la campagne de Joe Biden. Or, vous ne pouvez pas demander à un pays étranger ce genre de service. Et M. Trump reconnaît avoir une conversation, se dit prêt à présenter le transcript, ça vaut ce que ça vaut, de la conversation, et lui dit que, dans le fond, ce qui se passe, ce sont les démocrates qui, depuis longtemps, veulent en finir avec lui, et cette procédure de destitution qui est loin d'être simple et qui va prendre du temps, à ses yeux, c'est une façon pour les démocrates de se venger de leur défaite et bref, de tenter de lui nuire. Or, il pense que ça va avoir l'effet exactement contraire et que ça peut l'aider. Alors, la chef des démocrates, donc, Mme Pelosi, est sortie hier en disant « On amorce la procédure et on veut savoir exactement ce qui s'est passé ». Comment ça se fait d'abord que ce sonneur d'alerte, l'info ne s'est pas rendue, c'est une violation, et donc que le président a commis des gestes, des entraves, et qu'il faut donc le destituer. Soyons réalistes. D'abord, sur le plan politique, on est loin d'être convaincu que ça va voter majoritairement pour une destitution. Au contraire, les Républicains ont encore une forte emprise. Deuxièmement, nous sommes en élection à partir, je dirais, de janvier avec les primaires et dans un an l'élection présidentielle. Alors, est-ce que vraiment on peut procéder à une destitution? Il y a eu des tentatives dans le passé. La plus récente, c'est Bill Clinton pour des histoires à connotation sexuelle que vous connaissez très bien. Et ça n'avait pas abouti. Richard Nixon avait quitté juste avant d'être destitué. Alors, c'est sûr que c'est une procédure ou une technique qui n'est pas utilisée très souvent. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça peut marcher? Personnellement, j'ai des doutes, mais je ne pense pas que ça va aider les démocrates. Et je pense que, comme un élu disait hier, ça va diviser les Américains. Et je pense que Trump va faire des gains avec ça. Je pense qu'il va en tirer un profit. Et hier, il a commencé, il parle de chasse aux sorcières, il était super actif sur Twitter, puis là, il cible les démocrates qui veulent avoir sa peau. Et il risque d'aller chercher une certaine sympathie. Et en plus, dans l'affaire de l'Ukraine, ben, il a gelé l'aide qui est versée à l'Ukraine. Vous savez que, bon, que la Crimée a été envahie par les Russes et les Américains soutiennent l'Ukraine devant la présence russe et depuis l'occupation du territoire. Alors, c'est clair que les Ukrainiens sont dépendants. Cette espèce de chantage en disant « Regarde, trouve des cochonneries sur le fils de mon adversaire potentiel, sinon je te coupe les vivres. » Et c'est un peu ça qui s'est passé. Deuxième nouvelle ce matin, ce rapport de ce groupe d'experts sur l'environnement, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a donc publié son rapport, qui porte essentiellement sur les océans, sur les glaciers, un document qui a été rendu public à Monaco et qui ne vient que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le réchauffement de la planète s'accélère, que quand vous regardez l'impact sur les océans, on prévoit donc que les mers seront... en fait, le niveau des mers va augmenter, premier constat, avec la fonte des glaciers, que les glaciers comme tels vont donc disparaître. Ajoutons également que la population marine sera affectée, qu'il va y avoir dépeuplement, que l'érosion des sols va continuer. Alors, c'est la liste des catastrophes annoncées. Et d'où la conclusion, évidemment, de réduire les émissions de CO2 pour limiter les dégâts, parce que l'impact... Et là, ce sont des modèles, des projections qui nous amènent en 2050, qui nous amènent quand même jusqu'en 2100, si on veut. Quels que soient les scénarios, la mer va continuer à grimper, le niveau de la mer, après 2100. Ce qui veut dire, évidemment, qu'il y a des gens qui vont devoir être déplacés, que le nombre de cyclones tropicaux, la proportion des cyclones de catégorie 4 et 5, qui a déjà augmenté depuis quelques années, devrait continuer. Pas nécessairement avec plus de cyclones, mais ce qu'on appelle de la météo extrême. Je sais qu'il y a des gens qui, quand on parle de ces rapports-là, disent « il ne faut pas charrier, il ne faut pas exagérer ». Il y a quand même un certain constat qui est fait. La hausse du niveau des mers est deux fois plus rapide qu'au 20e siècle. Et malgré les grands discours, malgré les ententes de Kyoto, de Paris, on voit bien que les pays sont incapables de respecter leurs cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. On sait que la mairesse de Montréal, qui sera avec nous, est allée aux Nations Unies, qu'elle a pris un engagement, justement, en disant « Nous allons, à Montréal, réduire de 55 % d'ici 2030. » 2030, là, c'est dans quelques années à peine. Question, comment on va faire ça? Comment la ville va faire ça? Deuxièmement, M. Trudeau, hier, promettait effet carbone zéro neutre en 2050. Il n'y a personne qui le croit. Il n'y a personne qui pense qu'il va atteindre ça. C'est un autre ballon politique. Et la plupart des promesses environnementales, ça fait chic, c'est de bon goût, mais c'est toujours, évidemment, un peu de grand discours qui n'est pas assorti d'actions très, très concrètes, à part ce qu'on voit souvent, l'utilisation des taxes. Et l'utilisation des taxes, là, évidemment, la taxe carbone, rappelle juste que le Québec est la seule province où on impose une taxe carbone qui, pour l'instant, n'est pas remboursée totalement ou en partie par le gouvernement, contrairement aux autres provinces. Et on sait que cette taxe a nourri un monstre vert, qui est le fonds vert, qu'on est en train supposément de réformer. Alors qu'on aurait dû créer une vraie banque verte, une Green Bank, là, on remet ça au ministère de l'Environnement. Savez-vous quoi? C'est des centaines de millions, milliards qu'on investit là-dedans. Je n'ai aucune confiance, personnellement. Ils ont démontré dans le passé que c'était tout croche, puis on a laissé aller le bateau. Puis là, avant les vacances, mouvement de récupération, puis là, on dit non, ça va être bien fait à l'intérieur du ministère. On sait tous que c'est un espèce de buffet chinois pour les ministères où les projets sont bloqués et on va piger dans le fond vert. Là, on a dit non, M. Arcan, faites-vous-en pas, il y a une grande réforme qui s'en vient. Vous comprendrez qu'on peut avoir pas mal de doutes là-dessus. Donc, beaucoup d'engagements, mais des engagements qui sont plus ou moins, disons, respectés. On aura l'occasion aussi d'y revenir ce matin. Marc est là, puis c'est un matin difficile pour les gens là, qui s'en vont vers le tunnel de la Fontaine. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur la marche de vendredi. D'abord, ce serait important que les organisateurs fassent connaître le parcours, le trajet. C'est pas clair, en tout cas jusqu'à maintenant. Et hier, on a eu certaines infos qui parlaient d'un départ donc au Tam Tam, là, sur Avenue du Parc, Parc du Mont-Royal. Et après ça, bon, en direction vers le sud, jusqu'à Sherbrooke, après ça Saint-Laurent, après ça René-Lévesque, puis on se rendait jusqu'à Robert-Bourassa. C'est supposé quoi, démarrer sur autour de midi. Mais je pense qu'ils auraient intérêt quand même, parce qu'il y a un impact pour les gens qui travaillent au centre-ville. Il y a un impact pour les autobus, pour le transport en commun. On prévoit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis là, on ne peut pas juste être là en train de regarder ça en disant comment ça va s'organiser, là. Deuxièmement, on a beaucoup parlé, évidemment, des étudiants, là, la Commission scolaire de Montréal. Et j'étais impressionné hier des deux commissaires jeunesse qui ont, je pense, servi une bonne leçon aux adultes en disant, c'est quoi l'idée de donner congé? Par définition, on fait une grève pour le climat. On défie le système. Et c'est vrai. Là, les adultes ont décidé d'aller de l'avant. Et moi, je pense que c'est correct. Puis je sais que là, je vais me faire lancer des tomates, mais c'est pas grave. Je pense que tu veux aller manifester, tu veux protester. C'est pas une affaire de congé, là. C'est un geste que tu poses. Et là, il y a plein de commerces aussi qui, semble-t-il, vont fermer demain, au moins jusqu'à 17 heures, pour inviter ou pour faciliter pour leurs employés la manifestation. Donc, on peut s'attendre, là, pas demain, mais vendredi, à ce qu'il y ait pas mal de monde, évidemment, pour cet événement-là. Il y a un rapport qui est publié ce matin par l'Institut du Québec concernant la qualité de l'éducation, le décrochage scolaire. On sait que c'est un phénomène particulièrement vrai chez les gars. Et le constat est assez terrible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rencontré des gens du milieu, sont allés voir comment ça marchait ailleurs, en Ontario, dans d'autres pays. Et c'est clair, en premier lieu, que les facultés qui forment les profs sont incapables d'attirer les meilleurs étudiants, les étudiants qui ont les dossiers académiques les plus forts. Pourquoi? Il y a évidemment toute la question du salaire. Il y a la question de l'intérêt de base, c'est sûr. Mais donc, les normes pour devenir prof sont moins élevées que pour d'autres formations. Et probablement qu'un certain nombre aboutissent là un peu par dépit. Alors, qu'est-ce qu'on propose? C'est d'abord, je pense qu'on peut résumer ça en disant, c'est de créer un environnement stimulant pour un prof, c'est-à-dire du mentorat, et surtout dans les premières années où il enseigne, de la formation, un espèce d'encadrement, et de l'inciter à aller chercher, par le biais d'un programme universitaire pertinent, une maîtrise, mais sur une période plus courte, période d'un an, pour pouvoir enseigner au secondaire. Semble-t-il que c'est comme ça en Ontario et qu'on pourrait donc avoir des profs mieux formés avec plus d'expérience. J'ai reçu un courriel tantôt d'un auditeur qui est enseignant, je vais vous le lire. Une des choses à faire pour améliorer la profession d'enseignant serait de supporter les nouveaux profs avec des enseignants d'expérience qui malheureusement quittent à la retraite sans réinvestir leurs années d'expérience auprès des nouveaux. Il signe Alain, c'est pas son nom complet, enseignant depuis 36 ans, et futur retraité. Je pense que c'est un très bon point que soulève ce professeur, parce que faut que ça soit valorisé. Et évidemment, ça passe aussi par de meilleures conditions salariales. On le voit, la proposition du gouvernement concernant l'embauche, mais il faut que ça soit attirant pour les profs. Il faut que tu aies envie, parce qu'on sait qu'il y a un roulement, on manque de profs dans les écoles. Puis il y a aussi des gens qui, malheureusement, il n'y a pas que les élèves qui décrochent, il y a également des enseignants qui, après quelques années, décident d'aller faire autre chose. Louis Robert, le lanceur d'alerte, a témoigné en commission parlementaire hier soir. Essentiellement, il dit, puis je pense qu'il faut le voir aussi comme ça, là, je reçois des courriels de producteurs qui, il a l'air un peu du Rasputin, il fait peur au monde. Louis Robert n'est pas contre les pesticides. Louis Robert n'est pas en train de dire qu'il faut tomber à pesticides zéro. Il est en train de dire qu'il faut tasser d'abord l'industrie des pesticides et d'arrêter de se mettre à genoux devant les lobbies. En agriculture, le gouvernement du Québec a grandement ouvert la porte aux lobbies. Et je m'excuse, là, un lobby défend ses intérêts et défend pas le public. Quand j'entends l'ordre des agronomes, vous me permettrez d'avoir des grosses restrictions. Il y en a qui oublient qu'un ordre professionnel, c'est là pour défendre le public. Alors, Robert, il dit quoi? Il dit qu'on peut produire au Québec avec moins de pesticides. On va lui parler ce matin. Puis il y a des pesticides, on a vu hier, qui ont un impact sur la santé. On se répète quand on dit ça. Puis ce qu'on voit surtout, c'est qu'on est incapable d'avoir des données statistiques fiables, détaillées, sur la présence des pesticides dans l'environnement. C'est quoi les quantités? C'est dans l'eau, par exemple. C'est quoi l'impact? Ça demeure là comme si Québec détournait le regard puis ne voulait pas le savoir. Alors, Robert dit quoi? Il dit deux choses importantes. Produisons avec moins. Produisons mieux. Et arrêtons de se laisser comme ça porter par le lobby. Le lobby incluant les vendeurs de pesticides, mais aussi l'UPA dans ce dossier-là. Et je pense que ça peut se faire. Puis là, évidemment, la crainte des producteurs, qui est parfaitement légitime, ce sont les coûts. Est-ce que d'utiliser moins d'insecticides puis moins de pesticides, ça va augmenter la facture? Robert prétend que peut-être au début, mais en même temps, ça peut se faire, même dans, pour ce qui est des productions de grande échelle. Ensuite de ça, ce matin, il y a une poursuite déposée contre la Ville de Montréal et contre Valérie Plante. C'est le fameux projet du Grand Parc dans l'ouest de la ville. Et il y avait là des promoteurs immobiliers qui, depuis longtemps, avaient l'intention de construire 5500 logements. Ça fait, je pense, plus de 10 ans, là, sans doute c'est même plus que ça, qui travaillent là-dessus. Et alors là, eux autres, tu comprends que ça ne fait pas leur bonheur, et surtout que la ville a l'intention donc d'en faire le plus grand espace, le plus grand parc de cette nature-là. Alors, c'est une poursuite qui est logée de 178 millions. Un mot également en terminant pour vous dire, c'est dans le Journal de Montréal qu'on retrouve ça, Michel Richard qui perd son permis pour la xième fois. Alors, coupable hier de conduite avec les facultés affaiblies, une amende de 3 000 $, révocation de son permis de conduire pour 18 mois. Et essentiellement, donc, elle était sur l'autoroute 15 en direction nord lorsqu'un automobiliste a fait le 911 et qu'il a vu, Mme Richard en train de zigzaguer au volant. Changement de vitesse également, elle passait de 55 km/h à 120 km/h. Ça n'allait pas bien, ils l'ont intercepté. Et elle était visiblement en état d'ébriété. Elle était accompagnée de son chien. Et on a expliqué au procureur qu'il y avait une odeur d'alcool. Elle avait donné des mauvais papiers au patrouilleur. Ça n'allait pas bien, son affaire. Alors, il y a eu un paquet de délais dans ce cas-là. Et c'est pas la première fois, là. Il y a eu des acquittements, puis il y a eu également des condamnations. Alors, voilà pour Michel Richard. Et l'autre chose dont je vais vous parler, c'est Placido Domingo, cette vedette de l'opéra. C'est probablement le chanteur d'opéra qui est le plus connu à travers le monde. Alors, il y a eu des allégations de nature sexuelle, d'harcèlement sexuel, plusieurs cas. Et il devait commencer ce soir dans Macbeth, au Metropolitan Opera de New York. Et en fin de semaine, l'histoire n'est pas claire à 100%, mais en fin de semaine, les gens de la production de l'équipe qui répétaient avec costume ont fait savoir à la direction qu'il y avait un malaise de jouer avec Placido Domingo. Alors, on ne sait pas si c'est Placido Domingo lui-même, c'est l'opéra, c'est une décision commune. Mais il a annoncé hier, et donc à la toute dernière minute, qu'il ne serait pas sur scène ce soir et qu'il renonçait à faire partie de cette production. Il dit que les faits, comme on dit, la trame narrative est fausse concernant toutes ces allégations. Mais on sait qu'il y a plusieurs opéras, Philadelphie, San Francisco, qui ont déjà annulé les prestations de Placido Domingo. En Europe, ça pose moins de problèmes. Il y a vraiment une différence de culture sur ces questions-là de harcèlement sexuel entre, disons, l'Amérique du Nord, les États-Unis en l'occurrence, et une certaine, une plus grande tolérance du côté européen. Il est 6h24. Toujours le tunnel de la Fontaine, bien sûr.